Au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Le secrétaire d'État britannique aux forces armées James Heppey a parlé de menaces très sérieuses, très imminentes, après que les États-Unis et plusieurs de leurs alliés ont conseillé aux milliers de personnes tentant d'entrer dans l'enceinte de l'aéroport de Kaboul pour y être évacuées, de quitter la zone, le Royaume-Uni et l'Australie, évoquant une menace très élevée d'attentats terroristes. Tout comme Londres, l'Australie a conseillé de ne pas se rendre à l'aéroport et s'adressant aux personnes déjà sur place, elle leur a recommandé de se rendre dans un lieu sûr et d'attendre des informations supplémentaires. Les mises en garde ont été inhabituellement précises. Les personnes se trouvant actuellement aux entrées à Bay, Est et Nord devraient partir immédiatement, a indiqué le département d'État américain parlant de menaces sécuritaires sans autre précision. Quelque 90 000 Afghans et étrangers ont pu fuir l'Afghanistan via le pont aérien américain depuis que les talibans ont pris le pouvoir le 15 août. Hier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que les talibans se sont engagés en public et en privé à laisser partir les Américains, les autres étrangers et les Afghans à risque encore en Afghanistan après le 31 août à la suite du départ des troupes américaines. Au moins 8 personnes ont péri dans les scènes de chaos à l'aéroport ces derniers jours. Au Tchad, le chef de la junte au pouvoir, le général Mahamat Idriss Déby, a proposé hier de relancer l'accord quadripartite entre la Libye, le Soudan, le Niger et le Tchad en créant une force mixte aux frontières libyennes pour prévenir notamment l'incursion de groupes rebelles comme celle d'avril qui a entraîné la mort de son père Idriss Déby Itno. Il parlait à l'occasion de la visite d'un haut responsable libyen. Par ailleurs, l'ancien président et dictateur tchadien Hissène Habré, décédé au Sénégal où il était détenu pour, crime contre l'humanité, sera enterré ce jeudi à Dakar, a-t-on appris mercredi auprès de sa famille. Au Nigeria, au moins 16 personnes ont été tuées dans une attaque contre un village près de la ville de Jos, dans le centre du pays, en proie à de récents heurts ethniques, a-t-on appris hier, auprès des autorités et d'un hôpital. Les tensions sont fortes dans l'état du plateau depuis qu'une milice chrétienne a attaqué ce mois-ci un convoi de pèlerins musulmans tuant au moins 23 personnes. En Tanzanie, 3 policiers et un agent de sécurité privé ont été tués et 6 personnes blessées hier dans une fusillade à proximité de l'ambassade de France à Dar es Salaam, a annoncé un responsable de la police. Le Japon a annoncé aujourd'hui suspendre l'utilisation de 1,63 million de doses du vaccin de Moderna contre le coronavirus après des signalements de la présence d'impuretés dans 3 lots distribués dans le pays. La protection conférée par les vaccins de Pfizer-BioNTech et d'Oxford-AstraZeneca diminue notablement au bout de 6 mois, selon une étude britannique hier, dont les auteurs ont plaidé en faveur de campagnes de rappel. Par ailleurs, selon Johnson & Johnson, une deuxième dose de son vaccin contre le COVID-19 renforce l'immunité conférée par la première et jusqu'ici unique injection. La compagnie aérienne américaine Delta Airlines va, elle, pénaliser à compter du 1er novembre ses employés qui ne sont pas vaccinés contre le COVID-19 en leur faisant payer une surcharge de $200 par mois sur leur assurance santé. Une cour d'appel fédérale a confirmé hier la condamnation à mort de l'Américain Dylan Roof, se tenant de la suprématie blanche qui avait froidement abattu 9 paroissiens noirs d'une église de Caroline du Sud en 2015, une tuerie qui avait choqué la planète. Les autorités de Zanzibar ont annoncé la prochaine construction du plus haut gratte-ciel d'Afrique subsaharienne pour un montant de $1,3 milliard, dépassant de plus de 60% le budget annuel de l'archipel tanzanien. la suite de nos informations, le groupe Boko Haram frappe à nouveau au Niger. 16 soldats ont été tués lors d'une attaque mardi à Baroua, dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria. Le point avec Abdulrahman Dia.
Selon un communiqué du ministre nigérien de la Défense, Al-Kassoum Indatou, les positions des forces de défense et de sécurité à Baroua, dans la région de Diffa, ont fait l'objet d'une attaque par plusieurs centaines d'éléments de Boko Haram venus par le lac Tchad. Le texte fait aussi état d'une cinquantaine de terroristes neutralisés et d'une quantité importante d'armes et de munitions saisies. C'est la première attaque visant Baroua, localité riveraine du lac Tchad, depuis le retour le 20 juin de plus de 6000 habitants qui avaient fui les atrocités des djihadistes en 2015. Selon les autorités locales, entre juin et juillet, 26 573 personnes qui avaient fui ces violences ont été reconduites dans 19 villages, dont Baroua. Le gouvernement a évoqué une évolution positive de la situation sécuritaire sur le terrain pour justifier le retour des populations déplacées dans leur village d'origine. Début août, la présidence du Niger a annoncé son intention de construire une base aérienne pour renforcer sa lutte contre les groupes djihadistes dans la région de Diffa.
Le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, s'est livré mardi à une violente diatribe contre l'institution judiciaire, disant que la corruption est une honte qui empêche le développement du pays, Nathalie Barge.
Le président Évariste Ndayishimiye a déclaré recevoir de nombreuses doléances contre la justice, dont celle de citoyens disant être soudoyés par les magistrats. « C'est une honte », a-t-il lancé, estimant que cette forme de corruption décourage tout investissement au Burundi. Il a accusé les magistrats de monter des stratagèmes pour escroquer les investisseurs étrangers. « Même les Burundais ont peur d'entreprendre », a-t-il souligné, ajoutant que le développement n'est pas possible dans un pays où la justice est défaillante. Le président du tribunal de Rumonge, Jérôme Bonimpa, a dit que les magistrats étaient prêts à changer de comportement, tout en appelant le président à faire cesser les interférences dans la justice de hauts responsables en faveur des justiciables. Le président burundais a fait de la lutte contre la corruption une priorité depuis sa prise de fonction en 2020. Ces derniers mois, 3 directeurs généraux, dont celui du budget, et 119 comptables communaux ont été renvoyés pour des malversations présumées. La ministre du Commerce a également été limogée en mai.
Nombreuses réactions à la suite de la rupture des relations entre l'Algérie et le Maroc. Paris, l'OCI et la Ligue arabe appellent au dialogue, tandis qu'Israël dénonce les accusations infondées d'Alger. Claire Morin-Gibourg.
Paris a appelé l'Algérie et le Maroc à revenir à une logique de dialogue dans l'intérêt de la stabilité au Maghreb. L'ancienne puissance coloniale ménage ses deux importants partenaires, un jeu d'équilibre où elle est souvent accusée de parti pris. L'Algérie a annoncé mardi la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc après des mois de tensions autour du Sahara occidental. La normalisation des relations entre le Maroc et Israël, en contrepartie d'une reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, a ravivé les tensions. Les accusations algériennes contre Israël, dans le cadre de cette crise, sont infondées et sans intérêt, a réagi une source diplomatique israélienne, appelant Alger à se focaliser sur ses problèmes économiques. L'Organisation de la coopération islamique, la Ligue arabe, l'Arabie saoudite et la Libye ont également appelé l'Algérie et le Maroc au dialogue et à la retenue.
La Minute Éco, Rosine Mounezero.
La Chine va accompagner le Togo dans le déploiement de la télévision par satellite dans 200 villages. D'après Qian Keming, vice-ministre du commerce du géant asiatique, les deux parties avancent sur la signature des lettres d'échange pour le démarrage du projet. Le programme devrait toucher plus de 10 000 villages dans 20 pays africains. Au Cameroun, le ministre des Finances, Louis-Paul Motaz, a décidé le 20 août 2021 de payer des arriérés de dépenses des exercices 2020 à 2013 pour un montant de plus de 900 millions de francs CFA. au bénéfice de 42 petites et moyennes entreprises PME. Selon le ministère des Finances, cette décision vise à soutenir la trésorerie des PME dans un contexte de relance économique post-Covid-19. Le Kenya, cinquième producteur du café du continent africain, entend accélérer sa consommation intérieure dans les prochaines années. D'après Peter Munia, ministre de l'Agriculture, l'exécutif ambitionne en effet de faire passer la proportion de la récolte consommée localement à 7% à l'horizon 2025. Plusieurs chaînes de café seront ouvertes dans les universités publiques pour promouvoir la consommation auprès des jeunes, en insistant sur ses bienfaits pour la santé.
Merci Rosine. Et maintenant les sports avec Bagassi Koura.
Bonjour à tous, le Burkina Faso a fait le rappel des troupes pour les éliminatoires du Mondial 2022 contre le Niger le 2 septembre et l'Algérie le 7 septembre. Sur cette liste du sélectionneur Kamou Malo, on note de nombreux absents, dont notamment l'attaquant Bertrand Traoré d'Aston Villa en Premier League et aussi le grand défenseur du Bayer Leverkusen en Bundesliga, Edmond Tapsoba. Les deux sont blessés. Écoutez quelques réactions des supporters des étalons à Bobo Dioulasso.
Absence de Bertrand Traoré et puis Alain et puis Sarr Kaboré là-bas. Moi, je trouve ça que cela un peu l'équipe là.
Bon, je trouve que c'est une bonne chose d'amener de nouveaux joueurs, surtout les joueurs locaux du championnat burkinabé. Sinon, je pense que nous avons toutes nos chances pour nous qualifier grâce à ce groupe-là.
Le seul équipe qui est dans la liste là, c'est du côté de la défense. Moi, je pense que ces gars n'ont pas vraiment jouer ensemble. Parce que Cyril Bayala ne méritait pas la sélection. Et deuxièmement, Adama Guira, en lieu de place de Cyril Bayala, je proposais Yacouba Soigné.
C'est ça, là, c'est la catastrophe. À la sorte de Charles Kaboré, là, et Bertrand, c'est bizarre.
Les supporters des étalons à Bobo Dioulasso, des propos recueillis par Alidou Ouedraogo. Par combien de buts le Bayern Munich peut-il battre un club allemand de 5e division? Eh bien, si vous répondez 12, vous avez raison. Hier, le champion d'Allemagne a écrasé 12-0 le club de 5e division Bremer au premier tour de la Coupe d'Allemagne, avec notamment un quadruplé d'Eric Maxime Choupo-Moting, le Camerounais, avec une équipe légèrement remaniée, les stars Robert Lewandowski, Manuel Neuer ou encore Leon Goretzka n'étant pas du voyage. Le Bayern s'est très rapidement mis à l'abri avec 5 buts d'avance à la mi-temps, réduit à 10 à la 77e alors que le score était de 7-0. Le club du nord de l'Allemagne a encaissé 4 buts supplémentaires. Les autres rencontres du premier tour se sont déroulées début août. Ce match 1 était décalé en raison du cas de Covid-19 dans l'effectif de Bremer. C'est triplé du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang hier soir en Coupe de la Ligue anglaise. Arsenal, en difficulté en championnat, a pulvérisé 6-0 West Bromwich Albion au deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Le Paris Saint-Germain a dit verbalement non à la proposition de transfert du Real Madrid pour Kylian Mbappé, selon le directeur sportif du PSG, Leonardo, ajoutant que l'offre d'environ 160 millions d'euros n'était pas suffisante pour l'attaquant star que le club aimerait bien garder. Et puis enfin, Manchester City, lui, n'a pas écarté la possibilité de signer Cristiano Ronaldo après que Harry Kane, le capitaine anglais, a décidé qu'il restera finalement à Tottenham. C'est ce que rapporte la chaîne sportive américaine ESPN. Hier, Harry Kane a coupé court aux spéculations sur son départ à City en postant sur les réseaux sociaux qu'il ne quitterait pas les Spurs cet été. C'est selon ESPN, l'idée de signer Cristiano Ronaldo, âgé de 36 ans, qui joue à la Juve en Serie A, n'est pas encore complètement écartée.
Merci, Bogossi. Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Tout d'abord, toutes nos excuses en raison d'incidents techniques hier matin. Nous avons passé sur nos antennes un reportage autre que celui qui était annoncé en RDC. Voici donc le reportage promis sur la suspension par le gouvernement du Sud Kivu de 6 entreprises chinoises engagées dans l'exploitation des minerais. Ces entreprises sont accusées d'exploitation illégale et illicite de ces minerais. Et la plupart de ces sociétés opéraient sur le territoire de Mwenga, à une centaine de kilomètres de Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu. Notre correspondant Zanem Neti Zaidi.
Les 6 entreprises chinoises opéraient en grande partie sur les territoires de Mwenga, à plus de 100 km de Bukavu, la capitale du Sud-Kivu. Clément Moutewa, coordinateur des jeunes de la communauté du territoire de Mwenga, explique.
Les Chinois qui exploitent là-bas commettent plusieurs abus des droits de l'homme. Notamment, ils sont escortés par les FRDC dans le cadre de terroriser la population pour que la population ne puisse pas revendiquer ses droits. Ce sont des entreprises chinoises qui ne remplissent pas des conditions requises selon les codes miniers en vigueur. Ce sont des entreprises qui exploitent dans la clandestinité parce que presque toutes les entreprises n'ont pas des documents officiels qui les autorisent à opérer dans le secteur minier.
Avant l'arrêté provincial, cependant, les activités de ces 6 sociétés, les habitants de la région avaient dénoncé les pratiques illégales de ces employés, comme l'expropriation des champs des citoyens. Christian Wanduma, défenseur des droits de l'homme dans les territoires de Mwenga.
Et c'est ce que nous demandons toujours à l'autorité provinciale, c'est encore un papier, il faut que ce papier soit matérialisé, donne déjà de fruits, et ces fruits-là, le gouverneur devra normalement accompagner ces documents avec des mesures draconiennes, afin de ne pas dire que c'était juste un semblant à cette communauté-là.
Ces défenseurs des droits de l'homme plaident pour une indemnisation des victimes.
Ces villageois, si ces villes leurs droits violés, soient remis dans leurs droits, qui est indemnisation par rapport à ces villageois-là. Parce qu'on ne peut pas venir exploiter illicitement pendant que ce pays a des lois. Donc nous pensons qu'une fois cet arrêté ou cet arrêté est exécuté, ça va permettre à ce que les citoyens, les entités où s'opère cette exploitation puissent bénéficier de les ressources minérales.
Afin de contraindre ces sociétés à cesser leurs activités, tous leurs agents ont reçu l'ordre de quitter les zones minières avant que d'autres mesures ne soient prises. Safin Tobulingo, conseiller du gouverneur du Sud-Kivu.
Avec l'arrêté, on a demandé à ce que tous les travaux soient suspendus. On va procéder au blocage. Tous les citoyens, les travailleurs, aussi bien étrangers que nationaux, qui étaient sur le site, vont devoir quitter.
Cette décision intervient après celle prise dernièrement par le président Félix Tshisekedi d'établir de nouvelles directives pour le secteur minier dans le but d'assainir le secteur qui connaît des trafics de tout genre, occasionnant des grosses pertes pour l'économie nationale. Zanem Netizaïdi à Goma pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Toujours en République démocratique du Congo, quelques 500 enfants ont été sortis des mines grâce à une opération conduite par l'UNICEF. Ils ont été mis dans des écoles dans ce pays où la gratuité de la scolarité de base ne leur était pas accessible. Eddie Isango a joint à Lubumbashi Nenette Mwangé, directrice de l'ONG locale Association des femmes pour le développement communautaire, appuyée par l'UNICEF.
Beaucoup d'enfants traînaient dans les carrières minières à côté de leur maman. C'est à partir du mois de janvier que nous avons fait l'identification de 9 carrières minières de Kipushu. Et de là, nous avons identifié plus de 2000 enfants. Nous avons introduit notre demande à l'UNICEF. Il nous a prouvé qu'il est capable d'appuyer 500 enfants. Et nous l'avons fait avec l'appui de PTS. Nous avons fait sortir 500 enfants sortis des carrières minières. Donc ces enfants-là sont dans les 10 écoles de l'État à Kipushi et les 15 enfants sont dans l'apprentissage des métiers. C'est-à-dire il y a 485 enfants qui sont dans les écoles et 15 enfants qui sont dans l'apprentissage des métiers, tels que la couture et l'auto-école.
500 enfants qui étaient dans les mines, vous les avez trouvés des actes de naissance. Est-ce que c'est seulement les actes de naissance qui posaient problème pour qu'ils aillent à l'école?
Non, en fait, ce n'était pas seulement les actes de naissance. À la rentrée scolaire au mois de février, nous avons acheté les kits complets scolaires pour la scolarisation. Nous les avons distribués, ils ont commencé à étudier, mais c'est au fil du temps que nous avons constaté tous les enfants sortis dans des carrières minières n'avaient pas leur acte de naissance. Nous avons fait les plaidoyers pour que ces enfants aient leurs actes de naissance. Et à notre stratégie, on ne voulait pas seulement donner à 500 enfants sortis de carrière minière Nous avons aussi donné à d'autres enfants de la communauté qui étudiaient avec les enfants sortis dans les carrières minières.
Combien d'enfants sont dans les carrières minières? Est-ce que vous avez une estimation d'enfants qui sont là-bas?
À notre niveau, nous avons seulement fait l'identification dans 7 ou 8 carrières comme ça. Nous avons identifié plus de 2700 enfants qui traînaient dans des carrières. Et comme tu connais bien le projet ciblait seulement 500. C'est avec les 500 que nous avons retirés dans les écoles, les autres enfants traînent encore dans des carrières minières.
Quand vous dites trimballer ou traîner dans les carrières minières, ça veut dire qu'ils travaillent. Qu'est-ce qu'ils font là?
Il y a les enfants qui sont les transporteurs, les enfants qui sont les nettoyeurs des minerais, et les enfants sont là en train de tamiser les minerais au profit des adultes. Quoi.
Donc ce sont des travailleurs dans les mines?
Oui, ils sont des travailleurs dans les carrières minières. Ce sont des adultes qui utilisent les enfants et en les payant 500 francs, 1000 francs. Il a beaucoup travaillé.
Qu'est-ce qui explique qu'il y ait beaucoup d'enfants dans les carrières minières? L'école est gratuite en RDC?
Le problème, ce n'est pas de dire l'école est gratuite. L'école peut être gratuite. Si l'enfant partait à l'école en rentrant, il n'a pas à manger. S'il va rester à l'école, il y a une interdiction. Et si les parents n'ont pas de moyens pour le faire rentrer, au même moment avec les autres, est-ce que l'enfant peut être...
Nénette Mwang est directrice de l'Association des femmes pour le développement communautaire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Cameroun a transformé des bâtiments publics à sa frontière nord avec le Nigeria en logements temporaires pour d'anciens militants de Boko Haram. Des centaines de membres du groupe islamiste ont fait défection, dont plus de 200 dimanche. Un reportage de Moki Edwin Kitzeka, relaté par Nathalie Barge.
Selon le gouvernement camerounais, le centre de démobilisation et réinsertion à Méry abrite environ 1500 anciens militants de Boko Haram. Les responsables du DDR ont indiqué qu'une centaine de personnes sur 237 arrivées cette semaine sont d'anciens djihadistes. Les autres sont des femmes et des enfants, tous semblaient affamés. Alidou Faizar, 33 ans, dit qu'il a fait défection d'un camp du groupe islamiste dans la forêt de Sambisa, à la frontière avec le Nigeria.
Je suis fatigué de tuer et de piller. Boko Haram m'a promis d'améliorer mes conditions de vie lorsque j'ai rejoint le groupe djihadiste il y a 3 ans. Mais je suis maintenant plus pauvre et je souffre d'une mauvaise conscience me rappelant les crimes que j'ai commis. La paix n'a pas de prix.
Faizar souhaite retourner à Abadam dans l'état de Borno, au Nigeria. Selon les autorités camerounaises, près de 900 personnes sur les 1500 anciens djihadistes de Méry sont des Nigérians. Oumar Bichaïr, directeur du centre DDR de Méry, affirme que la structure est déjà à pleine capacité.
Notre centre provisoire de Méry est déjà saturé. Nous avons été amenés à les recevoir uniquement à Mora et sur 2 sites. Au niveau de mon bureau, le préfet a réquisitionné le centre de promotion de la femme et de la famille de Mora pour mettre à notre disposition. Le gouverneur a déjà contacté son collègue de Borno State. Et au niveau de la force multinationale aussi, le commandant du secteur numéro 1, le général Bouba, a rendu compte à sa hiérarchie. Évidemment, le coordonnateur national aussi s'est rapproché du ministère des Relations extérieures pour examiner les mécanismes de retour.
Francis Fayengo, directeur du programme du DDR, a annoncé que le président Paul Biya a alloué des fonds pour la construction d'un centre pouvant accueillir 1500 personnes à Meme, une ville du nord le long de la frontière avec le Nigeria. Il affirme que de nombreux militants désertent les camps des djihadistes.
Nous devons remercier les ex-combattants d'avoir déposé les armes. Je suis sûr qu'ils ont regardé les tableaux d'ensemble qui, d'avoir la paix, les autorités locales et la population vont les aider. Ils ne leur donneront pas seulement des choses matérielles, ils les conseillent. Vous voyez à quel point d'anciens combattants très jeunes luttent avec ferveur tous les jours à nos côtés pour appeler les autres dans la brousse à se rendre pour avoir la paix.
Le président Biya a demandé à gracier les combattants qui rendent leurs armes. Les Nigérians qui souhaitent retourner dans leur pays seront remis aux autorités nigérianes. Selon l'armée camerounaise, les djihadistes se sont rendus aux troupes de la force multinationale du bassin du lac Tchad, stationnée autour de la forêt de Sambisa. Selon elle, de nombreux combattants ont fait défection au Cameroun, au Nigeria et au Tchad, après la mort en mai de leur chef, Aboubakar Sékou.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le G5 Sahel face à la recrudescence des attaques djihadistes. Avec l'annonce en juillet dernier d'une réorganisation de la présence française dans la région, beaucoup s'attendent à la montée en puissance de la force composée de 5 pays du Sahel. Mais l'annonce de la réduction de moitié de l'effectif tchadien dans la région des trois frontières pose la question de l'avenir du G5 Sahel, alors que les groupes armés multiplient les attaques dans le nord du Burkina, au Niger et au Mali. Quelle stratégie face aux djihadistes au Sahel? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'Algérie a annoncé mardi la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc voisin, accusant le royaume d'action hostile. Pour analyser les raisons de cette rupture, Mohamedou Houmfa a joint à Dakar Ibrahima Kane, qui dirige le programme de plaidoyer pour l'Union africaine du réseau Open Society en Afrique de l'Ouest.
Pas du tout surpris, parce que vous savez que l'Algérie avait à deux reprises ces derniers temps dénoncé le comportement du Maroc. D'abord à cause des incendies qui ont eu lieu en Kabylie, où les Algériens estimaient qu'il y avait une main, l'homme de terroriste qui est soutenu par le Maroc et qui est à l'origine de ces incendies. Deuxièmement, le soutien ouvert du Maroc au mouvement qui essaie de réclamer l'indépendance de la Kabylie. Il y a aussi cette affaire Pegasus dans laquelle apparemment le secret marocain avait mis sous écoute certains responsables algériens. Et donc la suite logique de cette situation a été la rupture des relations diplomatiques. Ça paraît quand même être une décision extrême du gouvernement algérien.
Pourquoi l'Algérie continue à soutenir le Front Polisario, mettant ainsi en péril ses relations avec son voisin marocain?
L'affaire du Sahara occidental, au départ, c'était une affaire d'indépendance, une affaire d'accession d'un territoire colonisé par l'Espagne à la souveraineté internationale. Pour qui sait comment l'Algérie a acquis son indépendance, on peut comprendre que la question de l'autodétermination des peuples soit un élément central de sa diplomatie. Depuis le temps, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Les Marocains ont occupé une partie du Sahara, commencé à mettre en valeur certaines villes, exploiter les ressources. Au plan diplomatique et au plan international, la crise du Sahara n'a pas connu de solution. On piétine au niveau des Nations Unies. L'affaire avait été transférée au niveau africain. Tant que le problème n'est pas réglé, à l'amiable va toujours poser un problème entre les deux pays. Et
justement, comment entrevoyez-vous cette crise? Est-ce qu'elle fera intervenir des acteurs internationaux? Comment, selon vous, on peut apaiser cette tension entre les deux pays?
Les États-Unis étaient le pays qui pouvait jouer un rôle important, parce que si vous voyez comment la crise avait été gérée au niveau des Nations Unies, les États-Unis avaient toujours adopté une position médiane, bien qu'étant un pays très proche du Maroc, mais sur la question du Sahara occidental, il n'avait jamais pris fait et cause pour le Maroc. Ce qui a changé sous la présidence Trump. Trump a négocié la reconnaissance d'Israël par le Maroc, par aussi un infléchissement de la politique américaine au niveau du Sahara occidental. J'espère que les nouvelles autorités américaines font, comme ils l'ont fait dans d'autres situations, revenir sur un certain nombre de décisions prises par Trump. Cela pourrait amener les Américains à jouer un rôle, parce que les Algériens ont toujours pensé qu'une Amérique qui ne prend pas parti est un acteur important dans la recherche de solutions.
Ibrahima Kane, analyste politique, joint à Dakar. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.